Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Des gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Qui sont censés défendre la veuve et l'orphelin?
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Votre fidélité nous honore, vous le savez très bien. Vous savez que le rendez-vous, c'est chaque jour de lundi à vendredi à partir de 11h. Nous sommes ensemble pour le décryptage de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Les acteurs politiques regroupés au sein du cadre permanent de concertation CPC se sont réunis hier lundi 19 mai à Lomé dans le cadre de la 20e réunion. Les travaux présidés par Tchassona Traoré, Mohamed, ont porté sur les préparatifs des prochaines élections municipales. Au cours des échanges, plusieurs sujets liés à l'organisation du scrutin ont été abordés. Les participants ont notamment proposé une baisse du montant de la caution électorale accompagnée d'une réduction de moitié pour les femmes, ceci pour renforcer l'inclusivité du scrutin et encourager une participation plus large. Les acteurs ont également planché sur le financement des partis politiques. Ils estiment que l'enveloppe prévue par l'État reste insuffisante et ont plaidé pour son ajustement au regard des charges importantes liées à l'organisation d'une campagne électorale. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse, nous allons l'aborder et nous aborderons d'autres sujets bien sûr liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin. Nous allons en parler dans cette émission Club de la Presse de ce mardi 20 mai 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Etek aussi d'Activi assure la mise en onde. Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Osso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokoudé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Koktoazi à Dapaon. Et là vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous le savez très bien, vous pouvez nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, également c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi, Eric Parkoudjo-Johnson, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers collègues, chers invités, bonjour. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
J'espère que vous allez bien Eric.
Non Pascal, comment pourrais-je bien me porter si je te vois ce matin avec toute la lourdeur de ce qui t'est arrivé, un événement très malheureux. Oui, on en avait parlé la semaine dernière quand on a appris le décès, la disparition brusque de ton cher papa. C'est vraiment touchant. Pour moi, tu aurais pris un petit repos pour te ressourcer, mais te voilà encore au combat. Vraiment, je t'encourage, je dis très sincèrement, ça me touche.
Merci pour tes mots. Et ce sont des mots justement alors qui touchent. Merci Claude. C'est vrai que le combat, tant que ça nous appelle, on répondra toujours. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et il faut quelques jours alors de repos et pour se ressourcer. Mais tout compte fait, nous sommes appelés au travail et nous y sommes. Merci Eric.
Je t'en prie.
Adam Androni, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour auditeur, auditrice de Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Oui, un peu convalescent, mais ça va.
Ça va, l'essentiel c'est ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Jean-Baptiste Attisso, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour auditeur, auditrice. Bonjour à toi aussi. Pour le moral fort que tu témoignes à travers ta présence dans cette émission.
Jean-Baptiste, on me signale que votre micro, micro a quelques soucis. Temps de donner la parole à mon invité et je vous reviens, il n'y a pas de soucis. Monsieur Mollet Litembe, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien, professeur.
Oui, je vais bien, merci beaucoup.
D'accord. Vous êtes professeur à l'Université de Lomé, département lettres modernes. Vous êtes maître de conférences et enseignez, entre autres, je crois, la littérature comparée. C'est bien ça, professeur?
Oui, en effet, je suis enseignant à l'Université de Lomé et je suis maître de conférences en littérature africaine et comparée. Et donc, j'enseigne la littérature comparée, évidemment.
D'accord. Professeur, nous vous invitons aujourd'hui pour nous inaugurer un nouveau thème dans notre aventure littéraire consacrée à la littérature togolaise. Et c'est bien la bibliothèque animée, comme nous dénommons justement cette chronique. Et c'est souvent avec notre chroniqueur Claude Assiobotis. Mais pour cette inauguration spéciale, même d'ailleurs, de ce thème, de ce nouveau thème, nous vous avons invité. Et le thème, c'est bien. C'est corps de femme et fond d'esprit. Et professeur, dans la mythologie africaine notamment, il y a une figure qui concentre bien ce thème, femme en tant que corps, puissance de beauté charnelle, voix diabolique, femme en tant qu'esprit, génie au sens cérébral, au sens spirituel surtout. Alors professeur, première question, il paraît que vous êtes un chercheur du concept de Mamiwata, c'est-à-dire la sirène, à l'Université de Lomé. Quelles sont, selon vos recherches, les différentes faces de cette femme mythologique?
Merci pour la question. D'abord, je voudrais remercier mon aîné, Claude Assiobo, et qui me fait l'honneur de m'inviter par le truchement de votre radio à venir parler du mythe de Mamiwata. Effectivement, je m'intéresse à cette thématique. Et ce, depuis quelques années. Claude Assiobotis a sorti un roman en 2002, lorsque j'étais encore enseignant au Collège Notre-Dame des Apôtres. Le livre a paru et je l'ai lu. Et c'est là que j'ai découvert le mythe exploré par l'écrivain et qui m'a intéressé, qui m'a plu. Et depuis lors, le mythe ne m'a plus jamais quitté, et moi non plus. On chemine ensemble. Je puis vous rappeler que j'ai même démarré un article depuis 2013 que je n'ai pas encore achevé parce que sur le terrain, je n'ai pas toutes les réponses à mes questions. Donc, il faut faire du terrain. Il y a la documentation, certes, mais il faut faire du terrain. Le terrain, c'est la seconde phase de mes travaux, vous comprenez. Et donc, pour la première phase, nous avons quand même à travers la documentation, nous avons quelques résultats. Bien, c'est bien de préciser que c'est un concept, mais ce concept commence par devenir une théorie, parce que Claude Assiobotis, lui-même, en écrivant l'œuvre, a ébauché Pêcheur de sirène.
Pêcheur de sirène, oui.
L'œuvre s'appelle Pêcheur de sirène, qui a paru aux éditions AO en 2002, qu'il a dû réécrire, adapter à sa trilogie actuelle. Donc je disais que j'ai découvert le récit de Mamiwata Et j'ai poussé la curiosité pour en savoir davantage. Les différentes facettes, en réalité, Mamie Wata est une entité ambivalente. Elle a deux corps. Le corps de poisson et le corps d'homme. C'est dans l'imaginaire, hein, dans la côte ouest africaine, c'est dans l'imaginaire de tous les peuples de concevoir cette entité de cette manière-là. Et donc, elle est appelée déesse marine, c'est-à-dire qu'elle vit dans les océans et elle est aquatique. D'après nos recherches, dans l'imaginaire de ceux qui explorent cette thématique, elle est ambivalente. Elle a deux corps et c'est ces deux facettes-là qui sont souvent exploitées. Donc elle incarne le bien et le mal.
D'accord. C'est vrai que vous avez cité Claude maintenant comme auteur hein, qui a abordé le sujet. Comme référence, bien sûr. Professeur, est-ce qu'il y a d'autres auteurs également ou d'autres œuvres qui parlent, bien sûr, alors de cette femme mythologique?
Bien sûr. Nous faisons la promotion de la littérature togolaise, évidemment. Et ce, depuis 2008, nous avons inscrit au programme la littérature africaine et la littérature togolaise. Et donc, à travers cette littérature togolaise, nous avons des auteurs qui explorent. On a vu, par exemple, la fille de Nana Benz, j'oublie un peu son nom. Dans la fille de Nana Benz, on voit apparaître la sirène. Or, la sirène, ce n'est que le nom français de Mamie Wata. Mamie Wata, qui est adoptée au Togo, au Bénin et au Ghana. Et donc, dans l'œuvre de Kanye Alem, apparaît également cette figure. Vous voyez? Et récemment, nous avons la sirène des Bas-Fonds de Nour Faré. Et donc, les Camerounais, les Gabonais exploitent aussi... la figure de la sirène, hein, Mamie Wata.
D'accord. Et ça veut dire que ce n'est pas seulement dans l'imaginaire collectif alors de la côte, mais sur tout le continent, peut-être, on retrouve le même personnage.
Bien sûr. D'après nos recherches, lorsque nous évoquons le sujet avec les collègues qui sont des pays de l'intérieur, ils reconnaissent quand même une figure qui ressemble un peu à Mamie Wata, sauf que ce n'est pas exactement la même représentation. Vous voyez, donc, la représentation que nous faisons sur la côte ouest, c'est cette figure mi-femme, mi-poisson. Avec des cheveux, elle est attrayante, elle est représentée. Au Bénin, par exemple, et un peu au Togo aussi, elle est représentée sur le plan culturel. Parce que c'est une mythologie qui va un peu avec la religion. Et donc, la religion au Bénin, au Togo, a une représentation de cette figure-là. Et elle va toujours avec... l'esprit d'an. Je n'en dirai pas plus.
D'accord.
L'esprit d'an, serpent.
Oui, d'an, serpent.
Je ne sais pas si c'est avec les travaux de terrain qu'on saura exactement la source même d'ailleurs de ce personnage, Mamie Wata, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à l'origine même d'ailleurs de cette conception.
Des chercheurs français qui sont des anthropologues on fait des travaux sur Mamie Wata. Et un document que j'ai lu récemment parle de l'origine même de ce mythe au Bénin et au Togo. En réalité, il y a eu une influence des Afro-Brésiliens, il y a eu une influence aussi de la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, la figure apparaît depuis très longtemps, mais pas sous la même forme. Dans la mythologie grecque, la sirène a une forme mi-femme, mi-oiseau. Donc le buste est femme et le reste est oiseau. Et en réalité, on retrouve les manifestations des sirènes dans l'Odyssée, qui est le récit de Homère qui retrace les aventures de Ulysse à la fin de la guerre de Troie. Il rentrait chez lui et il a été éprouvé par les sirènes. Les sirènes, là, elles sont diaboliques, d'accord ? Elles ont une voix formidable, elles vont chanter, vous séduire et vous couler, vous amener à votre perdition. Les bateaux vont à leur perdition. Mais heureusement, Ulysse a su la ruse par un autre dieu. Et donc, il s'est fait attacher au mât de son navire et a bouché les oreilles. D'accord ? Et donc, il n'a pas entendu le chant et il n'a pas été attiré non plus par les forces de ces sirènes-là. Et c'est comme ça, par cette ruse, qu'il a pu, que Ulysse a pu anéantir les sirènes. Donc vous voyez, et là, cette conception est restée, le côté maléfique de Mamiwata est resté, a été récupéré. Et donc, au Bénin comme au Togo, il y a un culte qui est dévoué à Mamiwata. Et le culte, en réalité, ce n'est pas un culte diabolique. Excusez-moi de le présenter ainsi. D'après nos petites recherches, bon, je dis petites recherches parce qu'on n'est pas encore allé très loin, parce qu'il y a une barrière à partir d'un certain moment pour le chercheur. Quand vous voulez aller plus loin, vous devez vous faire initier obligatoirement.
Vous ne pouvez pas continuer.
Pour avoir certaines informations. Vous voyez, donc nous sommes dans le processus, nous sommes à une étape, et donc voilà ce que je peux
dire. D'accord. Alors, professeur, quelle est la récupération esthétique ces auteurs dont vous venez alors de faire cas, ou un exemple d'auteur ont fait ou a fait alors de Mamiwata en tant que corps et esprit?
Bon, je prendrai a priori l'exemple de Claude Asiobotis. Parce que parmi les auteurs togolais et d'autres dont nous avons eu écho, Claude Asiobotis me paraît l'auteur qui a le plus exploité le concept de façon à l'amener vers une théorie. Je pense qu'il est, parmi tant d'autres, la personne qui a réussi ça. Et donc, c'est pour cela que je disais au départ que le concept commence par devenir une théorie. Nous allons parler dorénavant du complexe de Mamiwata, comme on parle d'ordinaire du complexe d'Œdipe, ou bien du complexe de la tortue. Je présume que vous les connaissez. Le complexe d'Œdipe, c'est ce complexe-là développé par Sigmund Freud, qui voudrait que l'enfant, de comprendre que l'enfant entre 6 et 12 ans développe une tendance d'attirance vers le sexe opposé de ses parents, c'est-à-dire que vers le parent de sexe opposé. Par contre, le complexe de la tortue, qui est aussi développé récemment, c'est un complexe qui théoriquement dit que toute personne qui s'enferme sur lui-même et qui ne saisit pas les opportunités pour s'ouvrir, pour éclore, souffre du complexe de la tortue. Mais chez Claude Asiobotis, le complexe de Mamiwata, c'est ce complexe-là qui voudrait peut-être dire que toute personne qui ne valorise que ce qu'il a de matériel au détriment de la valeur humaine souffre du complexe de Mamiwata. Mais cela a été développé davantage dans son ouvrage qu'il a intitulé « Le destin d'Agbeto » ou bien « Dometo, lettre à mon élève ».
Tout à fait.
Voilà.
On a étudié même d'ailleurs cela ici au Club de la Presse dans cette chronique. Professeur, voilà. Eric, je ne sais pas si vous avez une question pour professeur.
Je ne sais pas si dans vos recherches, vous avez quand même appris que ce qui a quand même ressorti hein, cette ce mythe de Mami Wata, c'est qu'il y a une personnalité qui est rentrée dans l'océan, dans la mer, et qui n'est revenue que des années plus tard. Et c'est lui qui aurait commencé par rapporter l'histoire de Mami Wata. Je ne sais pas si vous avez eu cette information. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que dans vos recherches, vous avez un peu poussé à en savoir plus?
En effet, dans mes recherches, je n'ai pas encore rencontré ce récit.
Oui.
En toute honnêteté, je n'ai pas rencontré ce récit. Mais il faut reconnaître que c'est...
Oui, allez-y, professeur.
L'origine est un peu mitigée. En ce sens que chaque auteur essaye de nous proposer une représentation de Mami Wata. Et donc, nous avons des variantes. Nous avons plusieurs variantes des origines de ce mythe-là. Vous voyez? Et donc, chez Claude Assiobotis, par exemple, je voudrais préciser que nous sommes en littérature.
Tout à fait.
Et que on est dans un domaine de la création verbale, et donc c'est l'imagination qui prime sur la réalité. Et donc dans l'imagination de Claude Assiobotis, l'origine de cette entité vient du fait que elle a surgi du chaos, un peu comme tous les mythes des origines, que ce soit en mythologie égyptienne, d'accord, l'Égypte antique. Tout naît du chaos, même la mythologie grecque. Tout naît du chaos et c'est Gaïa, la première entité qui naît du néant. Gaïa, c'est la terre. Donc, sur la base de ce mythe-là, des origines, chez Assiobotis, nous avons Mami Wata qui est censée... En fait, c'est deux créatures qui sont sorties de ce qu'on peut appeler le monde, la terre créée. Agbeto et Agbevivi. Vous voyez? Et donc, c'est leur mère qui, un jour, les a invités à la visiter. Et donc, Agbeto a refusé de visiter sa mère. Par contre, Agbevivi a accepté de visiter sa mère. Et c'est ce qui a amené le dieu Hebieso, qui était dans la cosmogonie. Lors de cette création, le dieu Hebieso, qui a foudroyé la mère inceste, d'accord, et a transformé ses pieds en queue de poisson. Donc, pour échapper au châtiment, elle s'est retirée dans la mer. Elle est très loin au large pour éviter les châtiments du dieu Hebieso, qui est le dieu protecteur de toute création. Sorti, voyez-vous, du néant.
Alors, quand vous allez dans les couvents où on fait Mami Wata, on dit c'est le serpent aux dents. Qu'est-ce qu'on vous dit concrètement? Parce que par rapport à l'origine de Mami Wata,
je voudrais déjà préciser une chose. Je l'ai déjà dit. Je le disais tantôt que. Le processus a deux épisodes. D'accord. Le premier épisode, c'est de faire des recherches documentaires.
Tout à fait.
Et puis, le second serait le terrain.
Le terrain, ouais.
Où il serait possible de faire les couvents, etc.
D'accord.
D'accord. C'est vrai que nous avons pratiquement 15 minutes hein, pour cette séance de littérature, cette chronique, mais déjà nous avons débordé dans le temps. Tout compte fait, je sais que les uns et les autres auront des questions, mais professeur, oui. ce n'est qu'une partie remise.
Bien
nous
sûr.
Nous reviendrons sur le sujet, surtout que c'est ce thème-là que nous abordons. Nous reviendrons largement sur le sujet. Merci surtout pour votre disponibilité. Et je sais qu'il y a Isidore Akolo qui a une question pour vous. Et Isidore, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour au plateau, bonjour à l'invité.
Bonjour mon frère.
Je l'ai suivi avec beaucoup d'attention, mais comme il le dit, c'est de l'imaginaire. Mais dans notre conception de la chose, Mami Wata est une divinité.
Bien sûr.
Mais vous parlez d'entité.
Oui.
Il y a une différence entre entité, oui, et divinité.
Oui. Je suis d'accord
avec
vous.
La question que j'aimerais vous poser, est-ce que dans vos recherches, il y a une nuance entre Mami Wata et la Reine Mère?
Chez Claude Assurbotis, Mami Wata, elle est encore appelée la Reine Mère, la déesse mère. Elle a plusieurs noms. D'accord? Lorsque je précisais le contexte, c'était pour rester en littérature.
D'accord.
Et je disais que Mami Wata, elle appartient dorénavant à un panthéon dans la religion. Nous n'aimons pas parler d'animisme.
Ce n'est pas péjoratif. C'est la religion de l'âme.
On va parler.
C'est un autre débat.
C'est un autre débat. Mais je conçois que dans la religion africaine, plus précisément au Bénin et au Togo, Mami Wata est une divinité. D'accord? Et en tant que divinité, il y a un culte qui lui est voué. D'accord? Et ce culte-là est respecté périodiquement. Et Mami Wata, pour les adeptes de Mami Wata, elle n'est pas maléfique. Elle apporte le bien, le bonheur à ceux qui respectent ses principes. Elle devient rigoureuse lorsque vous passez outre ces recommandations. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup, professeur.
Quelle est la relation entre
Marie? Merci beaucoup.
On reviendra largement sur le sujet. Pas de souci.
Merci d'être passé dans cette émission.
Je vous en prie.
Si vous avez quelques temps pour rester avec nous, poursuivre le débat avec nous, mais je sais que votre agenda est chargé. Il n'y a pas de souci. Nous allons continuer quand même notre débat ici au Club de la Presse. Alors, on commence ce débat avec ce sujet que nous donne le journal Le Correcteur. Le journal Le Correcteur qui titre à sa une « Carburant, gaz, puits, électricité, le Togo de crève-cœur en marche ». Eric, c'est vrai, nous avons appris cela depuis la semaine dernière, c'est-à-dire le 15, et il y a le tarif de l'électricité qui est en augmentation. Et comment vous avez accueilli cette information sur l'augmentation du tarif de l'électricité, Eric?
C'est pesant, hein? C'est pesant sur tout citoyen que nous sommes. Du moment où on constate au jour le jour la cherté de la vie, et lorsqu'il y a l'électricité, l'eau, le pétrole, c'est-à-dire les matières de première nécessité dont les tarifs s'augmentent, évidemment que ça pèse sur nous tous. Et je crois que en tant que citoyen, comme tout le monde, je l'ai mal accueilli aussi. Tout simplement.
Vous l'avez mal accueilli. Jean-Baptiste, à votre niveau, comment vous l'avez accueilli?
Non, avec beaucoup de stupéfaction, surprise et comment on appelle, ton grincement de dents. Parce que vous savez, nous sommes au Togo, nous sommes dans un pays où on ne veut jamais pratiquer la vérité des prix. Et donc, dans un pays où on ne met pas la dignité des populations au devant des décisions qu'on prend, surtout au niveau du gouvernement. Puisque, vous savez, si on doit augmenter le prix des tarifs de l'électricité, je crois quand même qu'il doit y avoir quand même une discussion avec un certain nombre d'organisations de la société civile qui interviennent dans le domaine de la consommation. Tel n'a pas été le cas et tout est tombé comme une massue sur la tête des Togolais ou c'est sur les réseaux sociaux qu'on informe la population. Je crois que ça là, c'est le mépris total qu'un gouvernement peut avoir à ses citoyens. Parce qu'on ne peut pas comprendre qui est des institutions, un ministre de la communication, un premier, bon, peut-être le premier ministre n'existe plus, mais un gouvernement qui soit là et puis les canaux habilités pour pouvoir informer la population, on les laisse de côté et puis c'est sur les réseaux sociaux qu'on envoie une information aussi capitale que l'augmentation jusqu'à 12,5% des tarifs. Je crois que on ne peut, il n'existe dans je ne sais pas quelle part du globe où un gouvernement peut être méprisant vis-à-vis de ses citoyens. Je n'ai jamais vu ça. Et on le dit surtout que de par le passé, il y a toujours des discussions qui devraient y avoir lieu entre les associations de consommateurs et surtout le ministre de l'Énergie en ce qui concerne le prix du gaz qui ne cesse d'augmenter, alors que nous, au Togo, on est à le gaz butane de 6 kilos est à presque 5 000 et l'autre à 10 000. Et au même moment, quand nous voyons les pays qui nous entourent, le Burkina, le Bénin, c'est à 2 000 le prix du gaz de 6 kilos, alors que nous, au Togo, on nous fait croire que là où on importe, c'est cher. Je ne sais pas où est-ce que le Togo importe ses produits et qu'on n'arrive pas à comparer avec les pays qui nous entourent. Au-delà du gaz butane, il y a les carburants. Les carburants, on a toujours crié qu'il faut une vérité des prix. Aujourd'hui, l'essence, le super sans-plomb est à 700. Et aujourd'hui, personne ne peut nous dire clairement comment la structure de ce prix-là. Pourquoi
le baril litre est à moins de 65 dollars.
C'est ça. Donc aujourd'hui, quand on voit tout ça là, c'est que il n'y a pas du tout le citoyen qui est mis au devant dans les décisions que le gouvernement prend. Donc aujourd'hui, c'est je crois que cette dernière augmentation concernant les prix de l'électricité, c'est intervenu le 5 mai, tout juste au lendemain de cette fameuse république. Alors, si c'est le cadeau que la 5e République va offrir aux Togolais, je crois que c'est vraiment dommage.
D'accord. Isidore, est-ce que vous avez vu venir alors cette augmentation du prix de l'électricité?
Pas du tout. Moi, je suis ahuri. Au début, quand je voyais ça, heureusement que c'est journal officiel, c'est ça qui a fait foi. Sinon, j'allais dire que c'est du fake news. Malheureusement, c'est avéré. Et quand vous faites l'étude de la grille, attention, ceux qui sont faits là, j'ai l'impression qu'ils nous prennent comme des illettrés. C'est ça le problème. Quand vous voyez la grille, il y avait une tranche sociale à hauteur de 40 kWh qui est facturé à 63 francs le kWh. La nouvelle grille, on a réduit à 30 kWh la tranche sociale. Et ils nous ont donné l'impression qu'ils ont diminué à 60 francs. Mais 3 francs sur les 40 kWh, ils l'ont ajouté à la première tranche. Mais ce n'est pas normal. Ils prennent les Togolais comme des cons. Nous ne sommes pas des cons. Nous avons un peu de jugeote. Et la première tranche, qui était de 200 kWh, a été réduite à 120 kWh. Avec une augmentation de 80 francs. Sur kilowattheure. Et la deuxième tranche n'existe plus. La deuxième tranche, c'est au-delà de 120. Il y avait jusqu'à troisième tranche. Au-delà,
de 120 kWh, vous rentrez dans la majoration de 60 francs le kilowattheure. C'est trop. Et quand vous faites le ratio, nous sommes au-delà de 12%.
On parle de
12,5 en grosso modo pour la deuxième tranche. Ce n'est pas normal. N'est pas normal. Et surtout qu'il y avait eu des accords préalables. Il a tantôt dit entre les associations des consommateurs pour au moins informer l'opinion, aviser l'opinion. Mais ça s'est passé comme comment la cinquième réunion s'est passée sans nous aviser. Et nous sommes ahuris. Mais que voulez-vous? Le chien à boire, la caravane l'écrase.
D'accord. Adam, est-ce que vous avez, c'est vrai, il y a Isidore qui a dit que lui, il est ahuri. Et je ne sais pas si dans l'opinion, les uns et les autres également ont été surpris, ont été étonnés même d'ailleurs de voir cette augmentation. Mais au-delà de tout, est-ce que vous avez compris quand même qu'il y a de l'inaction, il n'y a pas eu de réaction?
Si, il y en a eu.
Des réactions, oui.
Bien, mais la fois dernière, Nkunu, c'est pas trop, a voulu faire... Non, l'autre là.
Gagnon, vous voulez dire
Gagnon, oui.
Docteur Gagnon.
Gagnon, on les a renvoyés.
Oui, mais justement, c'est vrai que ça a été une réaction
spontanée,
bien sûr. Mais on aurait voulu quand même, peut-être, qu'il y ait une réaction aussi d'envergure.
Vous savez, je crois que c'est une décision qui a pris pratiquement tous les Togolais de coup. On s'y attendait le moins. Dans un environnement où, c'est vrai, tout est cher, mais sur cet aspect-là, on n'a pas vu le gouvernement venir. Mais bon, j'étais un peu surpris quand Jean-Baptiste disait que c'était sur les réseaux sociaux que l'information a été donnée. C'est une contre-vérité. Il y a eu une sortie publique avec les deux ministères, c'est vrai, dans le chronogramme. Ils ont dit, c'est secteur par secteur.
C'est après la sortie qu'ils sont venus rectifier le tir. Hein. Ça, je suis très conscient.
Mon frère, j'ai
ils
la
sont
parole.
Venus après.
On laisse Adam.
Donc, c'est après cette sortie publique, je crois qu'il y a les artisans, il y a eu certains cas d'activité.
C'est quel jour?
Où l'information est venue.
C'était quel jour?
Dans le public, je sais de quoi je parle. J'ai pas eu écho, mais. Plus ou moins, j'étais plus proche de...
C'est quel jour de la sortie des ministres?
Des ministres.
Non,
il y a eu... Jeudi.
Il y a eu... Ouais. En tout cas, de toutes les façons, ouais. C'était ce qui s'est passé. Pas c'est pas sur les réseaux sociaux que l'information a été donnée pour la première fois.
Quand cela ne tienne,
ce qui est important, c'est que c'est une information impopulaire, j'allais dire, d'autant plus que pour les Togolais, on s'y attendait peut-être avec cette vie chère qu'on réduise pratiquement ce coup-là, comme ça a été le cas au moment des cris, pour permettre en tout cas de soulager un tant soit peu, en tout cas les ménages, etc. Voilà que ça a été une augmentation même. Mais je pense que la pédagogie en termes d'acceptation, j'aurais même préféré qu'il y ait même une augmentation graduelle. 12%, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup à supporter. Ça affecte pratiquement... je pense le budget de tout secteur d'activité, c'est tout le monde qui en partie. Il n'y a pas que ce soit dans les ménages, que ce soit dans les services. Nous utilisons tous l'énergie et je pense que 12%, c'est quand même trop. Et moi, j'aurais préféré qu'il y ait une augmentation graduelle et une pédagogie. Hein, préparer le mental au-delà de ce qui a eu lieu. C'est vrai qu'ils ont annoncé qu'il y aura des conférences de presse, etc. Donc, vous voyez déjà la réaction de la population. Lorsque on essaie peut-être de tout, puis si on en parlait de Nyanon qui voulait faire une conférence, on a tendance à croire que on étouffe en tout cas les voix de pouvoir dont s'exprimer sur la question pour avoir une idée réelle de la pression ou au sein de la population de la question. Tel n'a pas été le cas, donc je pense que c'est regrettable.
D'accord. Mais Eric, est-ce que vous comprenez le fait que déjà pour cette décision, les organisations de défense des consommateurs n'ont pas été associées pour que du moins ce qu'il y ait un travail de pédagogie?
Non, mais comment pourrais-je comprendre cela? Si entre ces organisations des consommateurs et le gouvernement. Il y a des accords préalables de concertation pour tout ce qui concerne les augmentations de prix, pour ce qui concerne les changements de tarifs, etc. Et que ça ne se fasse pas, je pense que c'est pas une bonne chose. Et en tant que consommateur, je dis, l'idéal serait qu'on soit informé officiellement avant l'application de ces nouveaux tarifs. Je pense que c'est pas une bonne approche. Il faut peut-être changer cette manière de faire pour que qu'il y ait quand même des discussions. Qu'il y ait des discussions pour qu'on explique au mieux les raisons qui poussent aujourd'hui à augmenter ces tarifs-là. Je crois, je l'avais déjà dit à plusieurs reprises ici, lorsqu'on nous dit que les institutions de Breton nous recommandent qu'on ne subventionne pas certains produits, et cela engendrerait de facto une augmentation. Je l'ai toujours dit, Isidore. Oui, ça, c'est mon analyse personnelle. Et je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est ce que je disais toujours. Et donc, il fallait quand même commencer par réveiller les citoyens sur cette situation-là. Aujourd'hui, malgré qu'on ait demandé, qu'il n'y ait pas de, qu'on ait recommandé quand même qu'il n'y ait pas de subventions, il y a encore toujours des subventions. Et pourtant, les prix sont augmentés. Ça veut dire qu'on aura encore d'autres augmentations de tarifs. Mais là, il faut qu'on explique aux citoyens les raisons qui poussent aujourd'hui à le faire.
D'accord. Oui, Isidore ?
Non, je voulais rebondir sur deux aspects. D'abord, dit que nous sommes tous des consommateurs, c'est faux et archi faux. Il y a des Togolais à part entière et des Togolais entièrement à part. Les Togolais à part entière ne payent rien. Les ministres et autres ne payent rien. Je n'invente rien. C'est l'ancien directeur adjoint de 2012 à 2014, Amoussou Peto, qui a fait ces révélations. Ce n'était même pas des révélations. C'est des confirmations. On sait qu'au Togo, il y a une certaine catégorie de Togolais qui ne payent pas les frais d'électricité. Ne vous hasardez pas à y aller. Soit le chef va vous mordre ou on va vous renvoyer manu militari. C'est ça la situation. Comment certains, les privilégiés, puissent consommer, et c'est nous, la plèbe, qui n'avons rien, qui devait payer. C'est ça la problématique de l'augmentation qu'on ne comprend pas et qui ne se justifie pas.
Parce qu'on ne se justifie pas. En tant que Togolais, quand on écoute cela, on se dit mais c'est au nom de quel droit ces autres Togolais consomment sans payer.
Sans payer.
Mais pire encore.
Mais ils sont consommateurs. Ils sont consommateurs, mais ils ne payent pas.
Je ne comprends pas.
Mais là, ils sont consommateurs quand même. Mais ils sont consommateurs. Ils sont tous des consommateurs. C'est comme si tout le monde paye.
Non, mais
c'était
mais
la. Non, oui. Non. Mais il y a des consommateurs qui ne payent pas. C'est ça la nuance.
Mais ceux qui sont des consommateurs,
il y a des consommateurs qui ne
pas tarder là-dessus.
Non, qui sont des consommateurs, mais qui ne payent pas. Ils ne sentent pas. Des consommateurs qui ne payent pas.
Alors, oui, justement, c'est ce que Eric lui a dit.
Non.
Maintenant,
c'est pas Eric qui avait dit ça.
Oui, maintenant, le deuxième aspect.
Eric qui disait.
Il connaît quand même aussi des coupures.
Bon, non, il faut les laisser. Si c'est général. Ça, c'est panne de secteur.
Ils subissent.
Non, c'est panne de secteur. C'est différent. C'est pas qu'ils n'ont pas payé, on est venu leur couper le courant. C'est différent. Je sais de quoi je parle.
Et oui, le deuxième aspect maintenant de votre intervention.
Il disait que les institutions du Bretton Woods ont demandé au Togo de ne pas subventionner.
Oui, ont recommandé.
Ce sont des recommandations.
C'est ce que j'ai dit. Vous. J'ai parlé de recommandations.
Soit. Les recommandations ne sont pas des injonctions. Vous pouvez faire valoir votre souveraineté pour dire que nous, au Togo,
Certes, ce sont des recommandations, mais nous n'allons pas les suivre. Tout comme on n'a pas suivi les recommandations de l'Union européenne sur les élections. Et nous avons décidé de financer au fonds propre nos élections. Mais pourquoi ne pas le faire pour les énergies? C'est ça, la duplicité de ce gouvernement ou d'unir qui nous régente. C'est ça le problème. Qu'on ne nous dise pas que les institutions de Britton nous ont demandé ou ont fait des recommandations et on devait les suivre à la lettre. Non.
Personne n'a dit ça.
D'accord. Faisons le choix.
Tu peux dire qui a dit ça.
Faisons le choix.
D'accord.
Merci. Non, mais moi, si je fais mes analyses, c'est qu'il faut la question. Pourquoi le Togo n'a pas opté?
Merci pour les deux analyses.
Tu ne peux pas dire.
Merci à vous deux pour les analyses.
C'est moi qui ai fait des analyses.
Oui, mais dis-moi pourquoi le Togo n'a pas. Pourquoi le Togo n'a pas avancé et sa souveraineté
sur les énergies. Mais merci. Voilà, Jean-Baptiste, on va aborder un autre sujet. On s'intéresse maintenant à ce sujet-là qu'évoque, bien sûr, le journal Le Correcteur, en parlant de 2 semaines sans gouvernement. C'est-à-dire, lui, il parle plutôt d'un retard alors dans la formation du gouvernement. Le journal écrit 2 semaines sans gouvernement, conférence sur la dette, conclave à Lomé sur la crise en RDC, messe au Vatican, les priorités de fort. Alors finalement, on pourra dire que pour ce qui concerne la formation du gouvernement, ce n'est pas pour le moment la priorité alors du président du Conseil.
Vous savez, je crois que tous les jours que Dieu fait, les actions que le gouvernement pose prouvent à suffisance que la priorité n'est pas, les Togolais ne constituent pas sa priorité. Et c'est ça qui est démontré par les faits et gestes que pose le président de la République.
Non,
certains présidents du Conseil. Ça dépend de là où c'est ça. Donc, ceci pour dire que aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir, si vous êtes un bon père de famille et que vos enfants sont en train de crier parce qu'ils ont faim, je crois que le bon sens voudrait qu'on les écoute et qu'on trouve des solutions à leurs cris. Mais tel n'est pas le cas. Et on essaie toujours de se mettre dans une sorte d'apparat diplomatique extérieur. Parce qu'il faut, polir son image à l'étranger qu'on est un bon président, on est un bon chef de gouvernement. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que les Togolais vont manger. Alors, s'il y a des priorités au niveau interne, il faut d'abord satisfaire ces priorités avant de courir pour un appareil diplomatique extérieur. Donc, ceci étant, si l'année passée, on nous a dit qu'on a mis en place un gouvernement de transition qui ne doit pas dépasser 12 mois. Alors, le 6 mai est déjà passé. Donc, on est aujourd'hui au 20. Ça veut dire que le délai est déjà dépassé. Donc,
mais entre-temps, le gouvernement a démissionné.
Le gouvernement a démissionné. C'est ça. Les affaires courantes vont durer combien de temps? Les affaires courantes là vont durer combien de temps? Si réellement on veut faire autrement, comme disait quelqu'un, qu'on veut gouverner autrement, mais on n'a pas vu cette gouvernance autrement, on n'a pas vu ça, jusqu'à ce que la personne ne quitte le gouvernement. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'on est entré dans une nouvelle république et que les choses allaient se faire autrement. Alors si on entre dans une nouvelle gouvernance et qu'on a toujours les vieilles habitudes, je ne vois pas la nouveauté qu'on veut faire miroiter aux Togolais. C'est ça la question qu'il faut se poser.
Adam, c'est vrai que tout récemment, au Gabon, on n'a même pas attendu ou du moins juste après l'investiture alors du nouveau président, rapidement, le gouvernement a été mis en place. Mais on pourra se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe et que déjà, 2 semaines après l'investiture ou la prestation de serment du président de la République et aussi du président du Conseil, finalement, nous n'avons toujours pas le gouvernement.
Oui, je crois que tous les Togolais se posent la question. Et vous avez bien fait de donner l'exemple du Gabon où, justement, après l'investiture du président, les heures qui suivent, il y a eu le gouvernement. C'est vrai qu'on dit à fait courant pour certains, tout fonctionne normalement, mais en réalité, tout ne fonctionne pas normalement. Puisqu'il y a des informations, il y a des notes adressées aux gens qui savent qu'ils peuvent donc prendre action. liés à la formation du gouvernement, les gens également tardent parce que ils se disent qu'il faut l'installation de nouvelles autorités pour qu'elles puissent prendre des décisions idoines liées à certaines préoccupations majeures de la population. Si tel n'est pas le cas, je pense que la préoccupation émise aujourd'hui par les Togolais est assez fondée et justement déjà pratiquement deux semaines, voire plus, sans gouvernement, c'est une préoccupation majeure.
Mais Isdor, vous, est-ce que vous comprenez le fait que jusqu'à présent, on n'a pas un gouvernement, un gouvernement de la 5e République, allons-nous dire?
Non, c'est ça pour voir suffisance que nous sommes partis sur de mauvais pieds. C'est ça le problème. J'ai l'impression qu'il y a du grain de sable dans le fonctionnement ou dans la mise en place de la 5e République. Je ne peux jamais imaginer qu'un ancien président de la République à qui on soumettait, à qui le Premier ministre soumettait la proposition de membres qui vont composer le gouvernement puisse traîner deux semaines. Moi, je pensais qu'il avait déjà une équipe sous la main au lendemain de son investiture, mais qui ne présente que voilà. C'est avec ceux-là que je voulais installer la 5e République de force. Mais on n'a pas vu venir. Moi, ça m'inquiétait. J'ai dit, mais dans quel pays sommes-nous? Un ancien président de la République, devenu Premier ministre. Bon, quoi qu'on dise, on dit qu'il est président du Conseil. Mais c'est lui qui forme le gouvernement. Et il a la prérogative. Il a beaucoup d'avantages aujourd'hui avec cette nouvelle constitution de ne pas demander l'avis de quiconque pour former son gouvernement. Mais qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? Donc nous allons droit dans les murs. Il faut que Fanny Assimbé, non, il faut que Fanny Assimbé puisse prendre ses engagements et les honorer.
D'accord. Oui, Eric, est-ce que ce sont les compétences qui manquent?
Ah mais là, vous me posez une question tout comme si j'étais le président du Conseil.
Ah mais vous êtes analyste, monsieur. Analyste.
Moi, non mais oui. Moi personnellement, je me dis que former un gouvernement dans cette situation-là aussi n'est pas chose aisée. Il faut le reconnaître parce que vous savez, on a mis en place un premier ministre qui, dit-on, est sorti de parti autre que Unir. Ça veut dire
un
que...
un président de la République.
Oui, j'ai dit un président de la République.
Non, un premier ministre. Non, je voulais juste...
Un premier ministre qui est sorti d'un parti... Un président de la République qui est sorti d'un parti autre que le parti au pouvoir, c'est-à-dire le parti majoritaire, c'est-à-dire Unir. Et donc, j'estime que l'on va chercher forcément à faire des concessions et peut-être faire rentrer d'autres partis aussi dans le gouvernement. Puisque, vous savez, la tendance générale est de dire aujourd'hui que pour que les choses avancent, il faut que d'autres aussi fassent un peu dans la gestion de la chose publique. Et donc, je me dis, si c'est cette intention-là, donc il faut forcément négocier des choses. Et ça peut prendre du temps.
Ça peut prendre du temps.
Oui. Non, moi, je ne pense pas que ça ne devrait pas prendre du temps. Si nous nous respectons, parce que c'est nous qui avons amené la nouvelle République. C'est si négocier, il devait y avoir, ça devait se faire en amont. Et qu'on ait une équipe sous la main. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis.
Isidore.
Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je
ne peux pas. Mes analyses, écoute-moi très bien.
Je ne peux pas concevoir.
Quand tu rebondis sur mes analyses, essaie de faire tes analyses encore plus poussées.
Oui, c'est ce que je dis.
En te disant. D'abord, quand tu dis que ça ne peut pas prendre du temps, nous sommes sur un terrain politique où rien n'est scientifique.
Ah bon?
Quand les gens vont
pour négocier. On ne dit pas, si je viens, c'est ce que je vais avoir.
Donc, c'est une navigation à vue.
Il faut faire des concessions.
C'est une navigation à vue. Tu me confortes dans ma position que c'est une navigation.
Non,
d'accord. Merci.
Pas du tout.
Adam,
pas du tout.
Merci beaucoup.
Pas du tout.
Merci. Merci. Adam, on aborde cet autre sujet pour terminer justement le débat. Et c'est par rapport à cette crise entre le Rwanda et la RDC. Vous écrivez, Lomé accueille une réunion de haut niveau pour une médiation africaine unifiée. Ben, c'est par rapport à cette à la médiation, le panel de facilitateurs, même d'ailleurs, qui s'est retrouvé à Lomé, c'était le samedi dernier, pour discuter autour de cette question ou de ce conflit dans le Grand Lac.
Oui, je pense qu'il n'est de nouveau pour personne que le président du Conseil togolais Faure Gnassingbé a été désigné par l'Union africaine comme étant le porte-flambeau de la paix en RDC. Et je pense que c'est à ce sens également que ces facilitateurs ont été également commis par l'Union africaine pour porter main forte à cette négociation. Et vous savez, la stratégie de la paix dans l'aide de la RDC, je pense que aussi bien les États-Unis que le Qatar ont également mené des actions, plus ou moins ont rencontré en tout cas ces acteurs de cette question-là, mais au même moment la stratégie qu'aborde le président du Conseil, qui a eu quand même à connaître des succès sur des plans diplomatiques, en ramenant donc la paix dans d'autres pays, va au-delà de l'aspect qu'on voit, en tout cas rassembler ses protagonistes, et puis etc., donner l'information, mais en réalité qu'on ne trouve pas conséquences sur le terrain. Mais aujourd'hui, vous allez constater que chacun campe sur cette position, mais que ce soit le M24, il n'avance plus, mais également la RDC également ne combat plus. Ça voudrait dire quelque part qu'il y a quand même une accalmie en attendant qu'on puisse donc récupérer entièrement le territoire. Puisque la RDC, même si aujourd'hui il n'y a plus de victimes, entend quand même reconquérir l'entièreté donc de ses frontières, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense que c'est grâce à ces facilitations-là qui ont permis, de toutes les façons, entre les deux grands acteurs, notamment la RDC et le Rwanda, puisqu'on dit le M23, pratiquement le seul fif donc du Rwanda. Et donc je pense que c'est déjà une très belle initiative et déjà que le président du Conseil est rencontré dans ses facilitateurs qui sont plus ou moins proches du théâtre de guerre, puisque vous savez, le Togo est très loin du théâtre de conflit. Et je pense que ces acteurs-là peuvent permettre donc d'être des canaux pour en réalité...
Et il faut rappeler quand même que le Togo, c'est le médiateur de l'Union africaine.
Tout à fait, mais le même facilitateur également.
Tout à fait.
Ils sont plus proches. Voilà. Ils sont connus comme cette crise-là. Ils peuvent donc...
Tout à fait. Jean-Baptiste, c'est vrai, le journal L'Audience, lui, titre aujourd'hui sur le sujet conflit RDC-Rwanda, première réunion présidée à Lomé avec le panel des facilitateurs. Alors, Lomé a été justement... cadre qui a réuni ces facilitateurs, ce panel de facilitateurs dans cette crise. Finalement, on pourra dire que la médiation togolaise est sur de bonnes voies.
On peut le dire que c'est sur de bonnes voies, mais vous savez, la guerre qui secoue la RDC pendant plusieurs décennies se fait comme on peut la comparer à un serpent de mer, ça revient. Et bon, dire que la médiation togolaise va donner un fruit immuable, c'est-à-dire une solution durable à cette crise, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes.
Toi, vous n'y croyez pas?
Pas trop. Pourquoi? Pas trop, parce que vous savez, les intérêts qui sont là-bas, les intérêts sont vraiment de toute nationalité, si on peut le dire ainsi, parce qu'il y a beaucoup de pays qui jouent au trouble fait derrière ce qui se trame dans le pays. Et donc, si aujourd'hui on va quand même dire que la médiation va donner un résultat palpable, et puis tous les intérêts là vont se taire pour que les armes se taisent aussi, je crois que vraiment il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes.
D'accord. Eric, vous écrivez dans votre journal L'Union, vous écrivez panel des co-facilitateurs de la crise à l'est de la RDC. Fong Gnassingbé a foi en l'avenir.
Évidemment, nous on s'est approché un peu des sources proches du médiateur et l'information substantielle qu'on a eue, c'est que en regroupant autour de lui des co-facilitateurs, c'est pour d'éventuelles discussions directes entre les parties congolaises et rwandaises. Et donc, si on arrive déjà à obtenir cela, je pense que c'est déjà une très bonne chose, parce que en temps de guerre, ce qui est plus difficile, c'est que les protagonistes arrivent à discuter entre eux directement. Mais ce panel de co-facilitateurs avec le médiateur de l'Union africaine, c'est pour trouver des voies et moyens pour que cela puisse arriver. Et donc, je crois que le président Faure, c'est lui qui a tweeté en disant que c'est avec optimisme et foi en l'avenir du continent que j'ai présidé ce panel en tant que médiateur. Et donc, c'est lui qui a foi, c'est lui qui le dit, et donc, il sait sur quoi repose cette foi-là, et donc, nous lui donnons quand même le bénéfice du doute.
D'accord. Est-ce que vous aussi, vous avez foi en cet avenir de la RDC avec cette crise, surtout quand on sait qu'il y a les grandes puissances qui sont derrière, même d'ailleurs, ce conflit?
Je ne saurais le dire. Je ne l'ai pas dans la boule de cristal.
Et vivement, je peux le dire, l'approche est bonne de pouvoir nouer la nouvelle corde sur l'ancienne côte. C'est ce que dit un maxime. Et togolais ou africain. C'est ce qu'il a essayé de faire. C'est une bonne approche. Mais est-ce qu'il a les coudées franches? C'est tout le problème. Vous vous souvenez que dans cette crise en RDC, Feu et Edem Kodjo, avec Son association PAS Africana,
absolument,
a été sollicitée pour la médiation. Qu'est-ce que ça a donné? Mais les forces en présence, les intérêts en présence, il vient de le dire tantôt.
C'est ça, Jean-Baptiste.
Est-ce que Fong Gnassingbé a les coudées franches pour pouvoir arrondir les angles pour le faire? S'il le fait, mais je vais l'applaudir à rompre les phalanges.
D'accord. Merci beaucoup, chers confrères. Nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat et donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs et bien avant nous allons revenir par après pour recevoir nos auditeurs.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous reprenons l'antenne et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35, 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57 pour réagir également sur des sujets, les différents sujets débattus ici au Club de la Presse. Premier auditeur en ligne, allô?
Ah, papa, bonjour.
Bonjour Basile, comment vous allez?
Ah, c'est bon, les gars.
D'accord, allez-y.
Bon, moi aussi, je vous présente mes condoléances.
Merci beaucoup, Basile.
De part Eric, que je l'apprends, c'est votre papa qui est décédé. Je suis à lui parce que les gens ne précisent pas plus. Je n'attendais plus votre voix. Mais il n'est pas de mon devoir de demander pourquoi papa n'est plus là. Bon, en train de nous faire l'émission. Bon, heureusement que Eric vient de le dire. Moi, je voulais remercier les faits également aussi. Pour dire quoi? Le gouvernement n'est pas encore là. Nous puissions le faire. Tout ce qui se travaille depuis 2024 ou 2023, que 5e fois, 5e république, c'est pour que quelqu'un soit là éternellement. former gouvernement et autres là, ce n'est pas leur préoccupation. Quand on le dit, vous n'aimez pas, mais demain, vous allez voir que nous, depuis là, nous avons dit la vérité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Le prix de l'électricité, c'est un pas passé. Tous les prix, le président de la République hier, aujourd'hui, peut-être, a augmenté tous les prix en priant les fonctionnaires. Que je peux dire qu'à mon nom de pays, qu'on ne peut même pas acheter ce que lui-même il a augmenté dans son pays. Mais c'est de ça que nous parlons. Si quelqu'un là, il est ici, il passe ça aujourd'hui, il dit que ah, c'est tous les Togolais qui sont indignés. Ah, bon vent à la personne. Merci à vous.
Merci beaucoup, Basile, pour votre intervention. Bonjour, retard de la formation du gouvernement. C'est normal, car la 5e République n'a pas tous les freins, sauf le frein à main. Si ça se relâche, le prince va se voir dans la haute mer. C'est Célestin Larry qui nous écrit 90-86-35-35. Allô? Allô, bonjour. Allô? 90-86-35-35, 91-36-63-75. Allô? Allô, bonjour?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour. Allô, bonsoir. Bonjour.
Oui, votre nom,
bonjour,
c'est...
Bonjour, le plateau.
Oui, votre nom, c'est...
Allô?
Oui, je vous écoute. Votre nom, c'est... Votre radio à côté également de vous fait un peu de...
Mon nom, c'est Benjamin.
Benjamin, vous nous appelez de quel quartier?
On nous demande à nous, la population, de faire des efforts pour régler les fractures de CET. Quel effort on a demandé à la carte des gens de faire? Est-ce qu'ils ont toujours leurs privilèges? Est-ce qu'eux aussi, ils paient les mêmes factures que nous? Ou bien ils vont toujours être libres à utiliser le courant comme dans leur fond? Parce qu'on ne peut pas demander de l'effort à la classe la plus pauvre du pays et laisser toujours la carte des gens avoir toujours accès aux mêmes privilèges. C'est insensé. C'est insensé, sincèrement. C'est difficile. C'est difficile. C'est énervant. Ok, c'est ça, passez une bonne journée.
Merci,
bye bye.
Merci beaucoup, Benjamin, pour votre intervention. 90-86-35-35-91-36-63-75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Nyamavo.
C'est Nyamavo.
D'accord, allez-y.
Oui, salut le plateau.
Et le plateau aussi vous salue.
Oui. Vous savez, l'effet boomerang, c'est ça qui arrive aux citoyens qui applaudissaient que cinquième vue, c'est une bonne chose. Ils n'ont rien vu, hein. Et je rappelle le gaz qui était laissé au Togolais par l'actuel président de l'Assemblée, en tant qu'il était ministre du commerce. Et il ajoutait que le commerce est libéral au Togo. Et que c'est il a laissé ça à ceux qui apportent le gaz, l'État ne subventionne plus. Maintenant, nous sommes tombés sur l'électricité. La prochaine fois, ça sera quoi? Ça sera la 5e République. Et si je me réfère à votre confrère Fadenaïté qui disait que les gens font leur réunion dans la franc-maçon là. Dans d'autres pays, la franc-maçonnerie a construit les pays. Hein. Ils ne se conseillent pas bien. Aujourd'hui, il nous a listé que presque tous les pays sont mis en bail aux banques islamiques. Il a cité les grands des immeubles pas possibles. C'est pas fait froid au dos. Le Togo est vendu. Bonne émission.
Merci à vous, Monsieur Nyamavo, pour votre intervention. Bonjour, Pascal. Je salue le plateau. C'est Modeste de Paris. Par rapport au sujet, le gouvernement est là ou pas? La population s'en fout pas mal, car ils savent qu'il n'y aura aucun changement. C'est Modeste qui nous écrit. Allô? Allô, bonjour.
Là ou pas,
la situation s'en fout pas mal. Allô? Décidément, on va recevoir notre auditeur 90-86-35-35-91-36-63-75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au club de la presse 90-86-35-35. Allô?
Allô, bonjour, c'est Pascal.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Ça va, et chez vous?
Ça va aussi par la grâce de Dieu. C'est
les condoléances.
Merci beaucoup. C'est
monsieur...
C'est monsieur Dodi.
C'est monsieur Marouna.
Ah, monsieur Marouna plutôt.
Bon.
Oui, allez-y.
J'aime le plateau. Monsieur Pascal.
Oui, monsieur Marouna, allez-y.
Je voudrais poser une question au plateau. Vous pensez que quelqu'un qui n'a eu pas réuni ses opposants a tenu un vrai dialogue avec ses opposants pour une médiation, et ça va réussir. Monsieur Pascal, vous pensez? Moi, je pense que mon fait de médiation, c'est déjà pour un échec. Que ce soit un dirigeant, tout en Bolivie, sans ce qu'ils font, ou bien ils prennent comme des fonds, quoi. Et c'est comme ça, dans la galerie, quoi, on est fatigué de faire une hypocrisie, quoi. Moi, je pense que le président peut faire quelque chose là-bas. C'est le plus beau. C'est le plus beau. Franchement, bonne émission.
Merci, monsieur Marouna, pour votre intervention. Bonjour, Canal FM. On est au Togo. On peut faire plus de 2 mois pour reconduire les mêmes personnes. Sinon, rien de nouveau. C'est Léonce qui nous écoute depuis de Lyon. 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, madame
Messi.
Oui, bonjour, madame Messi.
La même chose. Et puis, moi, je veux dire, pourquoi le président se plaît à me torturer, le ménage, quoi? Pourquoi il fait ça? Mais selon vous, là, son mandat n'est pas fini depuis 2015, 2020, 2025, le 5 mai ou le 3 mai, là. On devrait voter pour un nouveau président. Et c'est quoi tous ces trucs-là? Et maintenant, il faut pour aller faire la médiation comme du temps des anciens. Hein? Ils ont abandonné le pays et le Togo, le développement du pays, pour aller s'occuper des autres qui foutent la merde chez eux, comme s'ils en savent quelque chose. Mais pourquoi on va nous gouverner comme ça? Le Togo, maintenant le Togo appartient au président, vous êtes là, vous débattez de quoi même? Moi, je ne sais pas. Hein? Le Togo ne lui appartient pas. C'est comme le Poutine, là, qui pense que la Russie lui appartient. Et il est premier ministre, il est président. Après, il est premier ministre, il devient aussi depuis 40 ans. Et il pense partir en 2036. Est-ce que vous le savez, ça? Non. Mais attends, on va pas suspendre les lèvres du président pour attendre qu'il alterne quand? On a besoin d'alternance, quoi, et de démocratie pour évoluer. Dans l'histoire de l'électricité, tout ça là, il va faire quoi avec tout cet argent qu'il ramasse sur notre dos, tous les milliards par seconde, tous les jours là? Il va foutre quoi avec ça? On peut acheter le ciment à 25 000 la tonne, le gaz à 1500, 4000, tout ça là, le courant ne doit rien nous coûter. Pourquoi?
C'est compris. Madame Messi, merci. Merci pour votre intervention. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. 90-86-35-35. Allô?
Oui, papa, je reviens.
Basile.
Oui.
Oui, allez-y, rapidement.
Pour dire que tout ça est mis en œuvre pour faire souffrir le Togolais, parce que le président est devenu pressé. Quand le peuple souffre là, il est très content. Et voilà, moi je ne sais pas pourquoi. Mais jusque-là, il n'y a pas de professeur, lui, c'est son option. Mais quand on vient, on supporte ça, moi je suis contre. Celui qui vient, il supporte ça. C'est ça qui est, moi, qui me marre beaucoup. Lui, c'est son option. Il n'a jamais souffert, il est fils de président. Un fils de président qui l'a souffert, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais lui-même, il est devenu président. Il ne peut jamais souffrir. Mais quand nous, on dit qu'on ne trouve pas à manger une fois par jour, il trouve ça scandaleux. Que comment est-ce que les hommes peuvent parler comme ça? Mais quand on vient, on soutient ce qu'il fait, c'est ça qui me marre, moi.
D'accord. Merci, Basile. Oui, merci, Basile, pour votre intervention. Bonjour. Fonia Singhi a dit plus jamais ça au Togo, mais pour la guerre au Congo, il parle de la foi, discours creux. C'est Raphaël qui, Raphaël de Lomé. Voilà, chers confrères, nous allons revenir en plateau pour voilà, on lit rapidement cette réaction de Kokou. Bonjour Pascal, bonjour le plateau. Nous sommes à la merci de Dieu. La suite, c'est où trouver les sous pour résoudre son problème. Sans l'alternance, nous irons de mal en pis. C'est Kokou depuis Adidogomé. Nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de clôturer ou de mettre fin à l'émission. Isidore, je voudrais bien que, pour ce qui concerne alors notre tour de table, que nous nous intéressons au sujet du CPC et le cadre de concertation et, qui s'est réuni hier et là, les discussions ont été menées plus alors sur les questions des municipales, les municipales qui nous attendent en juillet prochain. Et, oui, quelle est votre réaction sur le sujet?
Non, j'ai suivi Tchassouna Traoré, qui est le président du CPC. On a procédé au remplacement de Pascal Adoko. Mais la question fondamentale, qu'est-ce que ce CPC-là apporte aux Togolais? Si ce CPC existait, est-ce qu'on va nous imposer cette 5e République à la Hussard? Qu'est-ce que le CPC dit ou a dit concernant cette 5e République? Le contrat social qui devait lier les Togolais. Mais s'ils sont là à parler au nom des Togolais, quel contrat social nous lie aujourd'hui? Ça, c'est ma question fondamentale que je voulais poser aux membres du CPC.
D'accord. Eric?
Oui, je pense que... Enfin... Personnellement, je me dis que quand on discute, quand on échange, on ne va pas tout avoir, mais on aura quand même le peu. Je continue pas à croire en ce que les Togolais discutent entre eux sur des sujets quand même qui concernent la nation. Oui, le CPC s'est réuni hier pour évoquer la question des élections municipales qui arrivent en juin. Vous savez, j'ai lu hier des courriers entre le président de la CENI et le président de la Cour suprême. Et là, je pense que c'est des questions qu'il faut forcément discuter entre politiques, puisque c'est eux qui soutiennent les candidats et c'est eux qui vont aux élections. Et donc, ces gens de courrier, je crois que si les choses se faisaient ainsi, il n'y aurait pas trop de grincement dedans. On demande aux gens, les gens qui apportent leur nationalité et avant ce qu'on nous fait aujourd'hui, avant les nouvelles, on veut les rejeter. Mais le président de la CENI a pris sur lui d'écrire au président de la Cour suprême pour lui demander quand même son avis, parce que lui souhaiterait accepter quand même ces nationalités-là pour les candidats. Donc, je pense que c'est des questions qu'on peut échanger au CPC.
D'accord. Oui, Jean-Baptiste.
Oui. Concernant le CPC, je crois que les acteurs qui y participent doivent quand même se poser mille et une questions si réellement les sujets dont ils discutent sont pris en compte par le gouvernement, sont mis en œuvre par le gouvernement. Sinon, on ne peut pas assister chaque fois à des discussions qui ne portent pas de fruits. Hein? Ça va peut-être se résumer à des jetons de présence que les gens prennent, alors que des décisions qui concernent la vie de la nation sont mises, sont relégués au second plan. Je crois que ça, là, on ne devait pas assister à de pareilles réunions. Donc, il revient aux acteurs de voir s'ils sont sincères et les sujets de discussion sont vraiment pris en compte par le gouvernement. Et pour chuter, je vais citer ce grand homme d'État africain qui disait, pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Je répète, pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Qui avait dit ça? C'est Fonia Singbe qui a dit ça en 2015 en Allemagne.
D'accord. Adam Adorno, allez-y maintenant, 30 secondes.
Non, vous savez, moi je pense que le CPC est un cadre qui porte aujourd'hui des fruits. Je ne sais pas si c'est à l'initiative des résolutions qui ont été prises au CPC que le ministre de l'administration territoriale, tout le monde a lu un communiqué parlant donc de l'attestation de résidence. Je pense qu'il a interpellé donc les maires à pouvoir ne pas excéder 5000 francs. Même si ce n'est pas le cas, ça voudrait dire qu'il y a un regard pertinent qui est porté sur les recommandations prises par les acteurs politiques sur des sujets politiques. Et je pense que l'idée, c'est de permettre à tout citoyen qui veut, en tout cas, postuler également à ces élections-là, d'avoir la chance de l'y faire, de ne pas avoir trop de contraintes en ce qui concerne, en tout cas, les contraintes financières. Et je pense que c'est de bonne guerre que le CPC puisse donc évoquer ces questions-là, qui vont toujours dans le sens de l'intérêt général, dans le sens du bon déroulement de ces élections-là.
D'accord, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Je lis cette réaction rapidement pour avant de mettre fin à l'émission. Bonjour les amis, que Dieu Tout-Puissant vous facilite les choses. Vous savez, si la composition du gouvernement a d'avenir, c'est que dans les mêmes figures, enfin c'est les mêmes figures qui viendront, les négociations de coulisses avec certains partis politiques ne marcheront pas. La 5e République est une bombe à retardement. Bonne émission. Je dis bonjour au doyen président de la République sans vie de tomber. C'est M. Nyamaku qui nous écrit. Et nous allons mettre fin à cette émission rapidement. Oui, Eric.
Je souhaiterais quand même avoir une pensée pieuse pour notre confrère Yves Gallet, et qui également a perdu sa femme avant-hier et qu'on a enterré hier. Nous étions au cimetière hier. Franchement, c'était très touchant. Nous souhaitons beaucoup de courage à Yves parce que à deux, c'est déjà pas facile, mais seul, ce sera encore difficile.
Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Eric. Et c'est toute l'émission Club de la Presse qui présente justement ses condoléances à notre confrère Yves Gallet. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Isidore Colomb, merci à vous, directeur de publication du journal Actu Express. Eric Parkoudjo-Johnson, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup également à notre confrère Jean-Baptiste Atissot, directeur de publication du journal Écho du Monde. Et aussi merci à notre ami confrère, bien sûr, Adam Andronou. Lui, il est analyste politique. Merci d'être passé alors dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Thomas était aussi de la TV, était à la mise en onde. Jérôme Dakouta à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain mercredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.